Vous écoutez, on lit pour vous.
Les étudiants à la maîtrise qualifiante en enseignement sont à bout de souffle. Un texte de Zacharie Goudreau, paru le 23 octobre 2024 dans Le Devoir. Des universités du Québec peinent à retenir jusqu'à l'obtention de leur diplôme les enseignants non légalement qualifiés y ayant entamé une maîtrise qualifiante, notamment en raison de la surcharge que celle-ci représente pour ces personnes qui, bien souvent, enseignent tout en étudiant. Depuis le milieu des années 2000, des maîtrises qualifiantes existent au Québec pour offrir l'occasion aux enseignants non légalement qualifiés de suivre une formation de deuxième cycle de 60 crédits, leur donnant accès au brevet d'enseignement et donc à une sécurité d'emploi. Mais ces dernières années, la pénurie de main-d'œuvre est venue complexifier la capacité de ces personnes à jongler entre leur charge de travail à l'école, leurs cours de soir et leurs exigences familiales, nombre d'entre eux étant des parents. La situation nuit au taux de rétention de ces étudiants à la maîtrise qualifiante, a constaté Le Devoir en compilant des données fournies par plusieurs universités québécoises. Le tout, sans compter ceux qui délaissent cette formation au profit de nouveaux programmes courts critiqués par plusieurs acteurs du milieu. L'Université de Sherbrooke fait ainsi état d'un taux de diplomation à ses maîtrises qualifiantes en enseignement oscillant autour de 40 % d'une année à l'autre, un pourcentage inférieur à ce qui est noté au baccalauréat en enseignement. Une insertion professionnelle difficile. Ces défis de rétention sont notamment liés au fait que les enseignants non légalement qualifiés sont plus à risque d'abandonner leur carrière dans le réseau scolaire que ceux qui ont entamé cette carrière en empruntant la voie traditionnelle du baccalauréat de 4 ans, estime le vice-doyen à la formation à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, Mathieu Petit. Pour les enseignants non légalement qualifiés, l'enjeu, c'est l'insertion socio-professionnelle qui est extrêmement difficile en ce moment, relève M. Petit. En raison du manque de main-d'œuvre, ces enseignants sont souvent appelés à travailler à temps plein dans des conditions difficiles et avec un soutien limité, dit le vice-doyen. Je sais que, dans certains centres de services scolaires, le service de mentorat n'est pas disponible pour les enseignants non légalement qualifiés, ce qui est pour moi un non-sens. Ces gens-là ont besoin encore plus de mentorat que leurs collègues d'expérience, relève Mathieu Petit. Dans ce contexte, les enseignants non légalement qualifiés sont nombreux à quitter leur profession et par conséquent, leur projet d'études, explique-t-il. La pénurie remet en question l'obligation légale de se former, relève pour sa part la doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université de Montréal, Alain Mamard. En raison du manque de main-d'œuvre, les enseignants non légalement qualifiés peuvent en effet être assurés d'avoir du travail dans le réseau scolaire, même s'ils n'ont pas leur brevet d'enseignement. Une situation qui soulève des questions quant à la qualité de l'enseignement offert dans nos écoles. Plusieurs enseignants non légalement qualifiés ne disposent d'ailleurs actuellement que d'un diplôme d'études collégiales, rappelle la doyenne Julie Desjardins, qui préside l'Association des doyens et directeurs pour l'étude et la recherche en éducation au Québec. Et ceux-ci ne sont pas toujours suffisamment soutenus par leur école, note-t-elle, la pénurie de main-d'œuvre rendant cet accompagnement plus difficile. Des universités s'adapte. Pour l'année scolaire 2022-2023, l'Université Laval fait pour sa part état de 31,3% d'étudiants à la maîtrise qualifiante à temps partiel en situation de persévérance et donc en voie de recevoir un diplôme. C'est nettement moins que les 77,5% d'étudiants diplômés ou poursuivant leurs études relevées chez ceux qui suivent ces études à temps plein et qui sont donc moins présents sur le marché du travail. On veut leur donner les bonnes conditions pour qu'ils puissent réussir leurs études, dit la vice-doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, Christine Hamel. L'établissement va, par exemple, étirer les délais pour la remise de travaux finaux par ses enseignants afin d'éviter de les épuiser au travail et dans les études, indique-t-elle. L'Université de Montréal travaille quant à elle à rendre ses horaires de cours plus flexibles afin que les étudiants à la maîtrise qualifiante en enseignement puissent plus facilement jongler avec toutes leurs obligations personnelles, professionnelles et universitaires, souligne quant à elle Alem Amar de l'Université de Montréal. Des écoles sous tension. Si les universités s'adaptent aux besoins de leurs étudiants, la pénurie ne donne toutefois pas la marge de manœuvre nécessaire à bien des écoles pour accorder des accommodements à leurs enseignants non légalement qualifiés. Il apparaît ainsi difficile, voire impossible, à celles-ci de permettre, par exemple, à ses enseignants aux études de travailler 4 jours par semaine au lieu de 5 pour disposer du temps nécessaire pour réussir leur maîtrise qualifiante, relève Geneviève Sirois, professeure en administration scolaire à la TELUC. Plus le système est sous tension à cause de la pénurie, moins on est capable d'offrir des conditions gagnantes à ses enseignants non légalement qualifiés, note-t-elle. On ne leur donne pas moins de responsabilités pour tenir compte du fait qu'ils vont devoir se former, donc c'est sûr que tout concilier, si on a en plus une famille ou d'autres obligations personnelles, ça devient une très grande charge, constate elle aussi la professeure au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Outaouais, Mylène Leroux. Déjà, en 2021, une enquête du ministère de l'Éducation notait que 82% des étudiants de la maîtrise qualifiante en enseignement constataient qu'il n'est pas du tout facile pour eux d'équilibrer leur charge de travail avec leur vie personnelle et leurs études. Cela représente près du double des étudiantes et des étudiants du baccalauréat se trouvant dans cette situation, relevait le Conseil supérieur de l'éducation dans un rapport paru en novembre 2023. Des maîtrises plus courtes. L'Université de Sherbrooke a pour sa part décidé de raccourcir la durée de sa maîtrise qualifiante afin de faire passer celle-ci de 60 crédits à 45 crédits cette année. Le vice-doyen Mathieu Petit explique que cette décision a été prise à la suite d'une évaluation périodique qui fait état de certains aspects de cette formation qui ajoutait beaucoup de lourdeur à nos étudiants. Une situation qui est venue corriger l'allègement de ce programme. Résultat, après avoir chuté de 30% en 2023, le nombre de nouveaux inscrits à ce programme a remonté de 32% en 2024, a constaté Le Devoir. Il nous semble qu'on a un bon équilibre avec 45 crédits, relève pour sa part Yves Chauchard, le vice-doyen aux études de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM, qui a mené un processus visant à raccourcir en ce sens l'ensemble de ses maîtrises qualifiantes en enseignement. L'UQAM fait partie des établissements qui ont vu le nombre de leurs inscriptions à la maîtrise qualifiante diminuer entre 2022 et 2023, cette dernière année ayant été marquée par la création de nouveaux diplômes d'études supérieures spécialisés en enseignement qui gagnent depuis en popularité au Québec. C'était « Les étudiants à la maîtrise qualifiante en enseignement sont à bout de souffle », un texte de Zachary Goudreau, paru le 23 octobre 2024 dans Le Devoir.
Partir aux États, expérience migratoire de femmes acadiennes, première partie. Une rubrique de Clint Bruce et Carmen D'Entremont, paru le 4 octobre 2024 dans Le Courrier de la Nouvelle-Écosse. Née à Pubnico-Ouest en 1919, Phyllis D'Entremont allait prendre plus tard, alors jeune adulte, le chemin emprunté par beaucoup d'Acadiens et d'Acadiennes de son époque, émigrer aux États-Unis. 5 de ses sœurs ont fait le même choix, et un frère aussi. D'abord serveuse à Boston, elle déménage ensuite à Long Island, New York, où elle étudie le design intérieur avant d'ouvrir sa propre boutique, The Acadian Collection. En 1944, elle épouse John Ridishaw, l'homme avec qui elle aura deux enfants. Passionnée de la mode, Phyllis va se maquiller et s'habiller chic jusqu'à son décès à 102 ans. Fascinant, certes, le parcours de Phyllis n'est qu'un exemple parmi tant d'autres histoires tout aussi captivantes de l'émigration acadienne vers le nord-est des États-Unis entre la fin du 19e siècle et le milieu du 20e siècle. C'est ce phénomène qui a fait l'objet d'une exposition lancée au mois d'août. Nos tentes font des vagues, expérience migratoire de femmes acadiennes. Dans cette chronique et celles qui suivront, il s'agira de faire connaître cette facette méconnue de l'histoire acadienne. Deux points d'abord sur l'exposition. Celle-ci s'inscrit dans un vaste projet de recherche intitulé « Trois siècles de migration francophone en Amérique du Nord, 1640-1940 » ou TSMF, sous la direction du professeur Yves Frenette de l'Université de Saint-Boniface, historien et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les migrations, les transferts et les communautés francophones. Financé par le Conseil de recherche en sciences humaines, CRSH, cette initiative réunit un grand nombre de chercheurs et d'organismes partenaires dans le but de mieux comprendre les mouvements et les processus migratoires qui ont façonné nos communautés francophones, et ce, dans presque toutes les régions du continent. L'Acadie y trouve une place de choix. Deuxième point. Notre exposition, qui est coordonnée par Carmen D'Entremont, associée de recherche à l'Observatoire Nord-Sud, est le fruit d'une démarche collaborative qui a débuté il y a plus de 5 ans. Cette collaboration réunit un comité de chercheuses bénévoles de Claire, affiliées à la Société historique acadienne de la Baie-Sainte-Marie et à l'Association Madeleine Leblanc et d'Argyle, affiliée, quant à elle, à l'Association des Acadiennes d'Argyle, ainsi qu'au Musée des Acadiens des Pubnico et centres de recherche dont les ressources nous ont été précieuses. Animés par les souvenirs de leur tante et d'autres membres de leur famille qui sont partis aux États-Unis, ces bénévoles se sont mobilisés pour recueillir auprès des gens de la communauté des documents et des récits de migration. Ainsi, nous avons pu constituer une importante collection de photos et qui ont été numérisées à l'Observatoire Nord-Sud. Les efforts du comité sont venus enrichir les enquêtes menées par les chercheurs universitaires, notamment Carmen D'Entremont et moi-même, avec l'aide de plusieurs assistants de recherche. Que faut-il savoir en découvrant cette exposition? D'une part, l'immigration des Acadiennes et Acadiens vers les États-Unis s'inscrit dans un vaste mouvement qui touche l'ensemble des provinces maritimes ainsi que la population canadienne-française. Nous sommes alors à l'ère de l'industrialisation et de la modernisation. Notons, d'autre part, que cette période correspond à celle des grandes vagues d'immigration vers les Amériques, principalement en provenance d'Europe. Entre 1870 et 1930, plus de 25 millions de nouveaux arrivants et de nouvelles arrivantes s'installèrent aux États-Unis. L'immigration franco-canadienne, quant à elle, totalise environ 900 000 personnes sur près d'un siècle. Si beaucoup de ces migrants rêvent d'y faire leur vie pour de bon, une proportion considérable retourne dans leur pays d'origine. Nous parlons alors de migration circulaire pour décrire ce va-et-vient entre les régions d'origine et le pays d'accueil. Quant aux jeunes femmes du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, la plupart d'entre elles se sont dirigées vers la Nouvelle-Angleterre, mais aussi à destination de New York. En plus de chercher du travail et des opportunités éducatives, elles ont immigré pour s'éloigner d'un mode de vie traditionnel, s'épanouir et vivre de nouvelles expériences. L'émigration, depuis les provinces maritimes, a eu un impact majeur sur les communautés francophones, tout en implantant de nouvelles branches de la diaspora acadienne aux États-Unis. S'il est essentiel de comprendre ce contexte général, notre exposition privilégie tout autant des récits de vie d'individus. Car il n'y a rien de banal dans l'histoire de toutes ces migrantes acadiennes. Prenons encore l'exemple de Phyllis D'Entremont-Redecha, originaire de Pubnico West et fondatrice de The Acadian Collection. Après sa retraite en 2012, elle reste encore plusieurs années aux États-Unis. Cependant, à l'âge de 97 ans, elle décide de rentrer en Nouvelle-Écosse, où elle finira ses jours en 2021 dans le pays d'Acadie qu'il avait vu naître et grandir et qu'elle n'avait jamais oublié. Lancée le 16 août à l'Université Sainte-Anne, c'est-à-dire pendant le Congrès mondial acadien, puis le 25 août au Centre communautaire de Pubnico-Est, notre exposition a attiré beaucoup d'attention et d'éloges. Pour cette raison, Nos tentes font des vagues sera accessible à nouveau l'an prochain, lieu et date à déterminer. D'ici là, notre intention est de donner aux lectrices et lecteurs du courrier l'envie de voir l'exposition, certes, mais aussi de s'intéresser davantage à leur propre passé familial. C'était « Partir aux États ». Expérience migratoire de femmes acadiennes, première partie. Une rubrique de Clint Bruce et Carmen D'Entremont, parue le 4 octobre 2024 dans Le Courrier de la Nouvelle-Écosse. Partir aux États, expérience migratoire de femmes acadiennes, deuxième partie. Une rubrique de Clint Bruce et Carmen D'Entremont, parue le 18 octobre 2024 dans Le Courrier de la Nouvelle-Écosse. De nos jours, le maintien d'un service de transport maritime entre Yarmouth et Boston ne semble pas chose facile. Il y a un siècle, c'était bien différent. Les bateaux partaient et arrivaient fréquemment et régulièrement. Un certain nombre de leurs passagers, et passagères bien sûr, originaires de notre province, s'en allaient pour s'installer aux États-Unis ou bien revenaient pour rendre visite à leurs proches. Ce sont ces réalités qu'explore l'exposition « Nos tentes font des vagues », expérience migratoire de femmes acadiennes, dont il s'agissait dans la précédente chronique. Or, il faut savoir que l'immigration acadienne s'inscrit dans une longue tradition d'échange avec la Nouvelle-Angleterre, même avant la déportation. Des historiens comme George A. Rolick, Jean Daigle et Neil Boucher ont bien démontré l'importance du commerce entre l'Acadie coloniale et le Massachusetts, commerce qui faisait partie des circuits du monde atlantique. Autrement dit, la marique comme cela se dit parfois, n'était pas un univers totalement étranger, même avant le grand dérangement. Au 19e siècle, plusieurs pêcheurs d'Argyle et de Clare s'installent de façon saisonnière au Massachusetts, près de Boston et de Gloucester. Des femmes s'y rendent aussi pour trouver de l'emploi. Certaines d'entre elles travaillent dans des usines de transformation de morue. À partir des années 1860, c'est la stagnation économique des provinces maritimes. Parmi d'autres facteurs, qui incitera de plus en plus d'Acadiennes et d'Acadiens à s'établir aux États sur une base permanente. Les flux migratoires prennent une ampleur considérable des années 1870 jusqu'aux années 1930. Pendant cette période, entre 20 000 et 30 000 immigrés francophones auraient quitté les provinces maritimes. Un bon nombre d'anglophones partent aussi. Pourquoi s'expatrier? Certes, les migrantes et migrants acadiens qui ont pris le chemin de la Nouvelle-Angleterre étaient attirés par la variété d'emplois. Autant pour les femmes que pour les hommes, c'était aussi l'occasion de devenir plus autonome et de s'épanouir en vivant de nouvelles expériences. Les villes industrialisées de l'État du Massachusetts se présentent comme des destinations de choix, où l'installation était facilitée le plus souvent par la présence de réseaux familiaux déjà établis. Qui plus est, l'implantation massive de la diaspora canadienne-française avait créé toute une infrastructure sociale de langue française et de religion catholique dans maintes villes et régions de la Nouvelle-Angleterre. Paroisses, journaux, associations culturelles, sociétés de bienfaisance, et j'en passe. Pour l'élite acadienne, et notamment pour le clergé, cette dépopulation représente une menace pour l'avenir de l'Acadie. En effet, la population acadienne des comtés de Yarmouth et de Digby aurait diminué de 6,8% entre 1911 et 1931, selon l'historien Neil Boucher. Mais ce n'est pas qu'une simple question de démographie. Parmi les effets de l'émigration, les femmes entrent en contact avec de nouvelles idées et façons de faire. Dans son enquête sur les familles acadiennes de Clare au milieu du 20e siècle, Marc Adélard Tremblay relève plusieurs effets de l'émigration et des retours au pays, autrement dit, de la migration transnationale. En plus des influences d'autres groupes religieux, de la hausse des mariages exogames et de la tendance à l'adoption de l'anglais, cet anthropologue discerne également une conception nouvelle du rôle de la femme. Leurs expériences à l'étranger auraient débouché sur une émancipation progressive et une conception démocratique du mariage en contradiction avec les valeurs traditionnelles prônées par l'Église et véhiculées par l'idéologie de la survivance. La première vague d'émigration survenue à la fin du 19e siècle, était surtout motivée par la nécessité de soutenir l'économie familiale. Ce sera de moins en moins le cas à partir du début du 20e siècle. Les femmes de cette deuxième période, baptisées El Dorado par l'historienne Betsy Beatty, sont très majoritairement célibataires. Elles ne travaillent pas nécessairement en vue de contribuer au revenu familial, mais agissent plutôt par intérêt personnel, accédant ainsi à un mode de vie autonome et bien différent de celui des générations précédentes. Certains aspects de cette tendance caractérisent le parcours d'Alice Déon-Surette, 1918-2022, dont le témoignage a été recueilli par Carmen d'Entremont dans le cadre de nos recherches. Ayant grandi entre East Boston, sa ville natale, et son village ancestral de Pubnico, Alice retourne aux États à 17 ans. Après avoir travaillé comme domestique, elle devient serveuse à la cafétéria du Simon's College. Elle n'est pas la seule Acadienne d'Argyle qui y travaille comme waitress à la cafétéria et comme femme de ménage. Sa sœur Doris se joint à elle en 1937 parmi d'autres compatriotes. À cette époque, Alice se plaît à sortir les samedis soirs pour danser et, devenue passionnée des sports, assister aux matchs des Bruins et des Red Sox. « Oh, moi j'aimais tout! J'aimais à vivre par là! » a-t-elle expliqué en 2021, en précisant. Même avait de la parenté en masse aux États-Unis. On avait beaucoup de monde de par chez nous. Bien que vivant aux États-Unis, elle ne s'est donc nullement détachée de son milieu d'origine. L'avènement de la Seconde Guerre mondiale va lui ouvrir d'autres portes et perspectives, comme pour tant de femmes de sa génération. En 1941, Alice déménage chez un oncle qui demeure à Lynn, au nord-est de Boston. Elle décroche un emploi avec la firme General Electric, où elle contribuera à la fabrication de produits de guerre. Et c'est dans cette même ville qu'elle rencontre son mari, Peter Surette, 1919-1989, et qu'elle finira par élever sa famille après un retour temporaire en Nouvelle-Écosse. Après leur retraite, au milieu des années 1970, Alice et Peter redéménageront à Pubnico. Fascinante et révélatrice du phénomène du va-et-vient de la migration transnationale, cette esquisse biographique d'Alice Déon Surette fait partie de près de 200 profils de migrantes acadiennes qu'ont préparé les chercheuses bénévoles du comité de notre exposition. La prochaine chronique mettra davantage en lumière l'univers professionnel de ces femmes, surtout dans le domaine des soins de santé. C'était « Partir aux États, expérience migratoire de femmes acadiennes », deuxième partie. Une rubrique de Clint Bruce et Carmen d'Entremont, parue le 18 octobre 2024 dans Le Courrier